Un tango, une danse, un baiser.
Si tu peux taper. Par les temps qui courent.
Ça y est, plus 21.
Et c'est que le moment dans ce moment de présent.
Et que c'est en faisant qu'on devient un faiseron.
Jusqu'à ce que le corps entier commence à devenir lui aussi visage.
Par les temps qui courent, Marie Richeux.
Un jour, voilà pour le temps. Une salle de répétition à l'hôpital psychiatrique de Montperrin à Aix-en-Provence, voilà pour l'espace. Après, ce sera plus difficile à dire, ou alors, très factuellement, un chorégraphe et une auteure viennent passer du temps et danser avec Célia, Mathieu, Victor, Arnaud, des enfants que l'on dit autistes. Pour chacun de vous deux, Thierry Tchouenyang et Marie Desplechin, ces scènes d'atelier déplacent des souvenirs, des murs, des amours, des manques, des voyages. Et dans le livre que vous faites paraître aux éditions des Buscla, tout y est écrit dans une même danse et en plusieurs mouvements, davantage attentifs aux instants qu'au flux du temps, car ils sont peut-être plus partageables. Au bois dormant, certains ou certaines endormis se réveillent avec des yeux tout neufs. Au bois dormant, c'est le titre de ce livre. Bonsoir à tous les deux, merci beaucoup d'être là.
Bonsoir.
J'ai dit qu'un jour plus un jour plus un jour, c'était le temps. Si on essaye d'être un tout petit peu plus précis et factuel, ces ateliers, ils ont eu lieu quand et pendant combien de temps ?
Ils ont eu lieu il y a très longtemps, presque 7-8 ans au départ. Et puis moi, j'y suis retourné plusieurs fois, retrouver un peu ses enfants. Mais la rencontre avec Marie, c'est une dizaine d'années avec ce projet qui était d'inviter Marie à venir me voir travailler auprès d'enfants et d'adolescents autistes. Et puis Marie, de cette rencontre, Marie a écrit un texte qui a grandi, qu'on a partagé ensemble sur un plateau de théâtre, et puis ensuite qui est devenu ce livre.
Pendant combien de temps ont duré ces ateliers-là ? Quand je veux dire combien de temps, c'est-à-dire les sessions lorsque vous y alliez régulièrement ?
Les sessions étaient entre à peu près une heure avec chaque enfant, et j'y suis allé pendant un an à raison de 4 jours par mois. Donc je prenais du temps avec... J'ai jamais travaillé avec les 4 enfants réunis. L'idée, c'était vraiment... parce qu'il y avait beaucoup d'ateliers collectifs dans cette institution. Et j'avais vraiment envie de prendre du temps avec chaque enfant et d'être dans une relation comme ça, privilégiée. Pour moi, c'était une première aventure, puisqu'après, il y a eu d'autres rencontres merveilleuses avec des détenus, avec des personnes âgées, des personnes atteintes d'Alzheimer, des adolescents. Donc c'était la première fois où j'étais plongé avec un corps qu'on dit empêché et de voir comment cette danse, leur danse, pouvait agrandir la mienne.
Puisque la question de la fréquence et du temps passé est assez importante et que dans votre texte, Marie Desplechin, mais pour parler d'un autre rapport, on vous demande de ne pas revenir tous les jours. Vous avez assisté à ces ateliers combien de fois, pendant combien de temps et de quelle manière ?
Ça s'est étalé, je ne sais pas, peut-être sur 2-3 mois et je suis venue, je ne sais pas, 5, 4, 5, 6 fois.
Oui.
Voilà.
Et à chaque fois, vous restiez l'heure entière ?
C'est-à-dire que les adolescents, ils se succédaient. Je dansais successivement avec plusieurs adolescents qui étaient dans un studio. Et donc oui, puis c'était à Aix. Donc le temps de, voilà, ça durait, je ne sais pas moi, 2-3 heures, non ?
Oui, 2-3 heures le matin, 2-3 heures l'après-midi.
Voilà.
Puisqu'on restait à peu près quelques fois toute la journée. Et donc des fois, il y avait des temps où pendant 30 minutes, il y avait l'enfant et moi, puisque la relation était juste un espace entre, comme ça, qui était jusqu'à ce que la danse surgisse, et la mienne et la leur, et qu'une relation dansée se mette en place. Il y avait quelque chose de comment s'apprivoiser, comment tenter l'un vers l'autre. Des fois avec du chaos, puis des fois avec beaucoup d'empathie, de douceur et de surprise.
C'est-à-dire que c'est tellement particulier comme rencontre que les gens qui pouvaient assister à ça, on était vraiment très très en retrait, on était comme des intrus.
J'allais même vous demander où est-ce que vous étiez dans la pièce.
Assis par terre contre le mur, avec et pour pas gêner en fait avec le sentiment d'assister à quelque chose d'extrêmement intime, d'extrêmement personnel, et donc à la fois le sentiment du privilège, hein, de pouvoir être invité et voilà, mais en même temps il fallait se tenir à une place très lointaine, hein, pour pas être intrus. Parce qu'on n'était pas conviés, nous, on était avec cette sensation un petit peu bizarre aussi, qui est d'être voyeur. Mais en fait, là, on était tellement discrets que bon, je pense qu'il y a... Voilà. Et c'est pour ça que ce que tu as fait n'était pas représenté sur scène devant un public de gens qui auraient été à ce moment-là en situation vraiment de voyeur. Parce que ce qui se jouait, encore une fois, c'était très intime, mais c'est un tel ordre de confiance et d'abandon... que vous pouvez pas inviter des gens à voir ça, c'est-à-dire c'est vous ne savez pas ce qui va être donné, quoi, c'est pas dans la maîtrise ou dans la c'est très particulier.
Vous pouvez pas les inviter à voir ça sur scène, en revanche vous pouvez les inviter à voir ça en studio, et c'est ce que vous avez fait vous, Thierry Tuenang, notamment avec Marie Desplechin. Pourquoi? Qu'est-ce que vous voulez, de quoi voulez-vous témoigner, ou pourquoi l'invitez-vous alors que, comme elle le dit, c'est si ténu, si intime, cet espace-là est si fragile aussi, j'imagine que il peut être mis en fragilité encore plus grande en faisant entrer des nouvelles personnes.
Je souhaitais vraiment que ces expériences-là puissent ne pas être assimilées à quelque chose de la thérapie ou à quelque chose du soin, et que j'avais vraiment besoin d'avoir un regard complice, un regard d'artiste sur le travail, pour pouvoir justement ouvrir le regard, ouvrir la façon de m'engager dans le mouvement. Et que s'il y avait juste quelqu'un du soin à observer, un infirmier, un éducateur, je me serais senti très 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 contraint. J'ai l'impression de dans l'imaginaire, dans la façon d'aborder l'enfant, et je me suis permis des choses parce qu'il y avait Marie et qui me permettait d'avoir son regard, d'avoir sa présence. J'avais choisi Marie aussi parce que je connaissais son œuvre, je connaissais son rapport à l'enfance, à l'imaginaire, au conte, et que c'était vraiment pour moi un appui très fort pour pouvoir oser un geste, oser un mouvement. Je savais qu'elle m'accompagnait comme une fée.
Moi je pense que, c'est-à-dire, enfin, j'imagine à ta place, hein, je n'ai pas la place de, en mettant là, ce que tu devais vivre à ce moment-là, c'était quelque chose qui était tellement émotionnellement fort que c'est une chose, c'est très très douloureux de le garder pour soi en fait. C'est une émotion qui va se retourner contre toi si tu peux pas la partager avec quelqu'un avec qui tu peux échanger sur le même mode. Parce que avec les jeunes danseurs, tu peux pas échanger sur le même mode. C'est-à-dire ce qui se passe dans l'échange, c'est extraterrestre.
Complètement.
Et le fait que bon, qu'il y ait eu moi, et puis qu'il y ait eu Patrice, et puis quelquefois les soignants, quand ils étaient très émus, ça faisait que cette expérience-là, elle devenait bonne.
Patrice
Chéreau.
Et c'était une expérience qui ne pouvait pas se retourner contre toi. Parce qu'il y a des moments où l'intensité est tellement puissante que c'est une chose qui est... Je ressens, alors j'ai l'air complètement dingue en disant ça, mais je vous assure que c'est vrai, c'est presque dangereux.
Complètement. Mais leur regard m'a permis, et j'ai juste envie de faire le rapprochement plus tard, quelques années plus tard, quand je me suis retrouvé à travailler avec des personnes atteintes d'Alzheimer et que Valéria, pour une idée de ski, Yann Corridian m'ont filmé. C'est exactement pareil. J'avais tout à coup des soutiens qui permettaient que le travail engagé était du côté de l'artistique, était aux côtés d'une écriture poétique et de contourner ce danger de façon frontale, mais au contraire d'ouvrir encore une fois un espace de liberté sans jugement, avec la possibilité justement d'aller loin et d'aller vers un vertige.
Parce que sinon vous vous sentiriez sommé de soigner?
Non, mais je crois que on me voit comme quelqu'un qui répare, qui soigne, qui amène la danse pour faire du bien. Et donc j'ai toujours besoin comme ça de tuteurs, d'appui qui continue à consolider l'idée que j'ai vraiment que la danse n'est pas là pour réparer, mais au contraire pour ouvrir un espace, pour inventer des formes et un souffle.
C'est-à-dire que s'il y a réparation, c'est dans le sens d'une transcendance. C'est-à-dire, c'est pas une réparation médicale. C'est ce qu'on peut appeler réparation, mais c'était très ténu, c'est les, qui est par la transmutation artistique, esthétique.
Célia est comme une courbe, une virgule dans l'espace, une liane. Elle est déjà là, dans la salle, quand j'arrive, elle ne fait rien. Sa bouche est collée à la fenêtre, elle lèche la vitre comme pour toucher le dehors, le jardin, le ciel à l'orage. Son regard est fixe, posé sur l'extérieur, loin, comme fuyant. Soudain, elle tourne la tête, regarde l'espace, le dedans, tout prêt pour voir, être là. Elle me laisse danser seule et longtemps. Elle regarde, silencieuse et droite. Célia est tremblante et fuyante à la fois. Son corps, sans parole, se traîne en boitant. Un déplacement d'un pas à peine, un balancement comme un bercement. Un demi-tour ou une rotation de l'un vers l'autre sont déjà des actions qui commencent une danse. Ensemble, nous occupons à peine un tiers de la salle. Dans un geste ralenti, je lui donne ma main qu'elle attrape, agrippe et retient. Je l'aide à aller au sol. Elle s'allonge sur le ventre, se hisse sur les bras comme un sphinx. Je pose mon pied sur son dos, elle se retourne, me regarde et pose sa tête au sol. Elle respire fort. Tout à coup, elle se lève en grognant et retourne à la fenêtre. Elle pose sa bouche sur la vitre froide, elle souffle et dépose sa buée. Elle ne me regarde pas. Que deviennent les yeux d'un enfant qui n'a rien à voir que le temps qui passe ? Et le temps, ça ne se voit pas. C'est un extrait du double texte « Au bois dormant » que vous publiez aux éditions des Buscla. Et on est dans votre partie du texte, Thierry Tionyang, puisque le texte est séparé, en tout cas le livre est séparé en deux temps. Lequel des deux a commencé à écrire ?
Marie. C'est Marie qui a commencé. Je crois que c'est Marie qui m'a donné envie, qui m'a donné le courage d'écrire, surtout. Puisque j'écris des notes de travail par rapport aux créations, par rapport aux collaborations que je peux mener. Mais il y a la présence dans mon travail depuis quelques années. Marie est la pionnière et la première de rencontres comme ça avec des écrivains avec qui j'ai pu travailler. Il y a eu Pierre Guyotat, Linda Lee récemment. Marie étant la première, ça m'a donné envie de chercher comme ça à travers mes notes et de les rassembler. Et j'avais besoin de raconter cette histoire parce que j'avais pas eu l'impression d'avoir eu le temps de partager, parce qu'il y a eu beaucoup de choses dans le travail qui s'est passé. J'avais pas eu le temps de raconter ces quatre enfants, qui sont des ados maintenant, que j'ai eu la chance certains de revoir et juste de me dire que j'avais besoin de partager ça.
Dans cette partie du texte, on l'entend, il y a une partie de ce livre qui consiste à dire ces ateliers, à décrire les gestes un par un, instant par instant. Mais ce n'est pas du tout la totalité du texte, mais commençons par cela. Vous avez commencé par ça, Marie Desplechin ?
C'est-à-dire que moi, j'avais une commande de Thierry. J'avais la commande de venir... c'est comme ça que c'est parti. C'est ça que tu m'as demandé, de venir assister à ces ateliers et d'en faire un texte. Alors, ce que je n'avais pas du tout compris, c'est que ce texte, il irait sur la scène. Donc ça a été quand même la surprise du chef. Mais j'ai assisté pour ça, en fait. Je venais pour ça. Donc après, évidemment, ça devient autre chose. Puis il y a toute l'histoire de... Et après, c'est une bonne surprise de la scène et où on a travaillé avec un musicien, avec...
Benjamin Dupé.
Avec Benjamin, oui. Et donc Patrice Chéreau... Et après, c'était arrêté, parce que un spectacle, c'est une chose éphémère, le spectacle vivant, et c'était arrêté, et voilà, il y avait ce texte, on en a souvent reparlé avec Thierry Pitiri, il a continué, puis je suis venue te revoir aussi, dans le 15e, de suivre ce travail, et la continuité de tout ce que tu as fait après. Et c'est vrai qu'il était, que c'était arrêté quelque part, mais que tout seul, ça se justifiait pas, puisque si ça avait été écrit pour la scène, en fait, ça avait été écrit pour que je le dise. Et est là le fait que Thierry il rentre dedans à son tour, il exprime tout ça, ça devenait autre chose. C'est complètement... Là, c'est un livre.
Vous avez travaillé avec, à chaque fois, vos souvenirs de ces séances, les corps de ces enfants qui étaient enfants à l'époque, ou, je ne sais pas, Marie Desplechin, dans ce travail-là, vous avez travaillé au fur et à mesure comme une sorte de journal.
Moi, j'avais pris des notes et puis après, à un moment, il fallait l'écrire parce que, encore une fois, c'était organisé, quoi. Il fallait qu'il y ait un texte. Et ce sont deux textes qui sont assez différents parce que moi, il est quasiment dans l'instant. C'est-à-dire, je vois, je cherche ce que je peux te dire par rapport à ça parce que c'est super compliqué. Vous vous retrouvez face à ce que vous voyez. Et avec avec ce truc très particulier de l'autisme et qui peut référer aussi à pas mal de gens dont la psyché ne fonctionne pas exactement de la même façon que la vôtre, qui est un sentiment que vous ne savez pas comment le penser. En fait, c'est assez simple dans une visée thérapeutique, parce que vous avez des outils pour le penser. Vous savez où vous êtes, vous savez quel type de rapport, enfin, à peu près.
Pas toujours.
Oui, mais quand même, vous avez une base pour penser les choses.
On peut choisir un appareil théorique pour
soigner.
Le penser.
Oui, ouais, voilà. Mais si vous n'avez pas à soigner, comment vous pensez? C'est vachement c'est super compliqué. C'est parce que...
Et l'un et l'autre, vous avez pris des chemins qui étaient le choix de repasser par vous. C'est-à-dire que vos textes tiennent à ce qu'ils ne sont pas uniquement la description de ces ateliers.
Parce que c'était impossible. Je ne vois pas comment on aurait pu faire. Ou alors une chose, je ne sais pas si elle aurait été très... Enfin, je ne sais pas ce que ça aurait donné. De toute façon, moi, je ne sais pas tellement faire autrement. Je suis désolée. Hein.
Et moi, forcément, ça passait par moi. Déjà parce que ça passait à travers mon propre corps, mon propre mouvement. Donc forcément, j'avais à un moment donné aussi besoin de tout à coup de mettre une distance, de renommer les instants, les fragments de ce qui m'était arrivé, et de voir comment chaque chose retentissait, l'écho de partager une heure avec un enfant et de me retrouver après une heure dans ma vie, et comment quelquefois, souvent, ces enfants-là me m'ouvraient une réponse aux événements de l'actualité, aux événements de la vie.
Ouais, puis même, c'était très très émouvant. C'est très très émouvant. Il y a des moments où on pleurait, enfin, c'était mais alors comment vous parlez de ça? C'est-à-dire vous ne pouvez pas décrire les trucs sans parler de l'émotion qui vous saisit, ça n'aurait pas de sens, ça c'est complètement absurde. Et donc vous êtes obligé de vous interroger sur ce qui vous submerge à ce moment-là. Qu'est-ce qui fait ça? Donc vous êtes assailli par une multitude de questions et en fait dès ce moment-là, vous êtes obligé d'interroger votre propre émotion.
Au bois dormant. Madame, monsieur, quand j'allais à l'hôpital psychiatrique de Maison-Blanche, quand je traversais le grand parc sous les arbres immenses, sur le tapis des feuilles d'automne, quand je marchais jusqu'au pavillon 46, qui était un pavillon fermé, je constatais que j'en étais arrivée de vivre deux ma marche, deux mes trajets d'un endroit à un autre, et que j'avais perdu la faculté de penser. Je marchais à cette époque du matin au soir, où je travaillais, où je faisais ce que j'avais à faire. Mais je ne pensais pas. C'était impossible. Je ne savais plus penser, ni quoi, ni comment. Marcher, ne pas penser, cette histoire a duré des mois. C'est aussi que la pensée ne servait plus à rien. Elle ne me servait pas à rejoindre celui que j'allais voir à l'hôpital de Maison-Blanche, dans le pavillon 46, qui était un pavillon fermé. Je l'avais perdu et il m'avait perdu et nous étions séparés l'un de l'autre par un gouffre. Nous étions séparés par un mur épais, par des douves, des donjons, des souterrains, des oubliettes, des forteresses, des forêts. Et on est dans votre château du texte, Marie Desplechin. Au bois dormant, c'est à la fois le début de cette partie du texte que je viens de lire et à la fois le titre de ce texte que vous publiez tous les deux aux éditions Débuscla avec Thierry Tchouenyang. Avant que de parler de peut-être le miroir des deux marches qui vous font aller au pavillon 46 à l'hôpital psychiatrique de Maison-Blanche, parlons de ce titre et des forêts et des forteresses et des douves et du conte. Comment s'est-il invité là?
Eh bien, je vais revenir à Thierry. Il est arrivé. T'es arrivé avec Au bois dormant, ça s'appelait comme ça. Et donc, c'était pas mal parce que c'était déjà une...
Qu'est-ce qui s'appelait comme ça?
Le projet de ce qui pouvait exister à partir de ce que... Puisque, si il me demandait à moi, c'était l'idée du conte aussi. Parce que comme j'écrivais pour les enfants, voilà. Et donc je suis partie avec ce... Et c'était très adapté pour un tas de raisons. Là. Oui, évidemment, parce que ça fournissait des images qui étaient des images qui permettaient de comprendre ou de visualiser ou d'apprivoiser, en tout cas, ce dont il fallait parler.
C'est-à-dire ? Pourquoi est-ce que cet imaginaire du conte-là vous a permis d'écrire tout sauf un texte pour les enfants, mais d'arriver avec un imaginaire qui, tout à l'heure, on disait, on est dépourvu d'outils pour penser l'émotion qui nous submerge. Là, quelque chose, quoi ? Des mails ? Invite ? Ouvre ?
Quand on m'avait invité dans cet hôpital à rencontrer ces enfants, quand je les ai vus, je les ai aperçus, chacun dans leur monde, chacun contre le monde. Très vite, j'ai eu ces images de personnages de contes. Je me dis, voilà, ce sont des êtres à qui on a jeté des sorts au-dessus de leur berceau. On attend juste qu'on trouve une formule magique pour qu'ils puissent se réveiller, pour qu'ils puissent se mettre à parler, pour qu'ils puissent être comme nous. Et j'avais vraiment cette image comme ça de prince et de princesse endormis à qui on avait jeté un sort et qui étaient là à se cogner la tête contre les murs, à se balancer d'un côté à l'autre. Et je m'étais dit c'était à moi d'imaginer comment de trouver des moments magiques pour pouvoir les faire se réveiller, les faire acquérir comme ça une espèce de statut de prince et de princesse qui puisse rire, puisque le texte de Marie finit parce que il rit. Et c'est vrai que on a vu que les moments merveilleux étaient les moments où ils riaient, puisque c'est tout à coup, ils étaient comme nous, quelque chose comme si le sort avait été levé, et c'était dans le rire partagé que ils étaient tout à coup dans une humanité partagée et émouvante. Et très vite, j'ai dit à Marie, mais voilà, au bois dormant. Et c'est vrai que j'avais envie d'imaginer j'ai fait un solo à partir de cette expérience, qui n'était pas vraiment un solo, puisqu'il y avait un musicien et puis Marie qui disait le texte. Et j'avais pris une vieille toile d'un opéra qui représentait une forêt. Et au lieu de mettre la toile verticale, je l'avais posée au sol. Donc la forêt était couchée sur le sol et je dansais sur ce bois dormant, donc qui était un bois couché.
C'était très judicieux en fait de prendre l'univers du conte, parce que le conte, alors c'est même pas un genre, mais dans le conte, donc il n'a pas été écrit pour s'adresser aux enfants particulièrement, le conte, il n'y a pas de psychologie. Voilà, c'est un truc, il n'y a pas. C'est-à-dire, ça nomme les choses et ça les désigne sans qu'il y ait jamais d'empathie possible psychologique.
C'est-à-dire
C'est-à-dire, vous pouvez pas appliquer vos schémas ou souffrir comme ou donner des petites explications, parce que dans le cas des personnes qui ont un autisme, ça ne s'applique pas. Voilà, vos petits schémas psychologiques ne s'appliquent pas. Donc en fait, tout le vocabulaire ou la représentation visuelle du miracle, du sort, tout ça fonctionne en revanche, parce que ça sont des outils que vous pouvez utiliser. Donc c'était très bien.
Alors peut-être pour revenir à l'autre partie de ce texte-là, l'un et l'autre, je disais, vous passez par vous, mais vous passez aussi par le récit, Thierry Tunion, que vous disiez, des heures que vous viviez en dehors de ces heures d'atelier. Et pour vous, Marie Desplechins, c'était quoi le miroir que vous offrait ce trajet vers l'hôpital psychiatrique de Maison-Blanche ?
Ce à quoi je fais appel dans mon texte, hein. Eh bien, alors en l'occurrence, j'ai eu la chance de connaître l'expérience, d'avoir une personne très proche. Alors, je ne sais pas, parce qu'il n'y a pas forcément de diagnostic si la personne était juste autiste ou autiste avec de compensation. Donc de connaître l'expérience, d'essayer de se rapprocher ou de communiquer, c'est même plus communiquer avec quelqu'un qui est très loin de vous, c'est-à-dire qui, où là aussi, la psychologie et l'empathie, mais c'est ce qui
c'est marche
généralement, c'est absolument inopérant. Et de par la proximité ou l'amour qu'on peut avoir pour cette personne, donc éprouver ce scandale de la douleur, en fait. Et une fois qu'on est dedans, comme de toute façon, on n'en meurt pas. Il faut l'apprivoiser. Trouver et l'apprivoiser, c'est peut-être ce qui se passe dans la danse aussi. C'est-à-dire, et donc il y avait un tas d'éléments. C'est difficile parce que c'est comme différentes sources qui arrivent pour vous dire oui, en fait, c'est ça que je peux dire. C'est donc ça me rappelait cette expérience-là. Et puis aussi, il y avait la danse, et la danse, c'est la marche. Et à un moment, quand vous êtes dans ce truc d'apprivoisement, qui est un espèce d'énorme travail, vous n'êtes plus qu'un corps, puisque votre pensée habituelle, tout ce que je disais tout à l'heure, la psychologie, l'empathie, tout ça, ne sert absolument plus à rien. Donc, comme vous devez continuer, vous êtes votre corps, quoi. Et ce corps, dans le contact aussi, comme quand je parle à un moment d'une infirmière qui prend dans ses bras et tout ça, ça référait directement à la danse. C'était des choses que je pouvais voir dans ce que faisait Thierry. Donc, la première émotion que j'avais, donc, quand il était avec les adolescents, je la retrouvais, elle était alimentée par tout ça, voilà. Moi, en le voyant, tout ça répondait.
Et pour moi, c'est exactement la même chose. C'est en relisant le texte de Marie, parlant des forteresses, des douves, des forêts, et de cet éloignement et de cette femme qui dit ne revenez pas tout de suite, ne revenez pas tous les jours. J'avais personnellement cette voix de Marie aussi qui au moment où justement une histoire d'amour se terminait pour moi, et je l'entendais, Marie qui disait mais c'est fini, ne voilà, elle me le disait, elle me l'a dit concrètement, elle me l'a dit,
ne reviens pas demain ni tous reviens, les jours,
voilà, n'y reviens pas, c'est terminé, voilà. Et c'était d'accepter tout à coup qu'il y avait en face une forêt, une citadelle, un château fort, qu'il y avait l'un et l'autre séparés, mais ça voulait pas dire mort, ça voulait pas dire terminé, c'était juste cette séparation, et que cette séparation nous faisait exister l'un et l'autre toujours.
Il est énormément question de la distance entre les êtres dans ce texte-là au Bois Dormant, la distance qu'on trouve lorsqu'on vient danser avec des enfants ou des adolescents autistes dans un hôpital psychiatrique, la distance qui peut se jouer entre deux êtres qui s'aiment, se connaissent, mais qui sont d'un seul coup séparés parce que quelque chose se passe dans le corps ou la tête de l'autre qui empêche qu'on se connaisse et qu'on s'aime comme habituellement, et la distance de personnes qui se sont aimées, ont fait l'amour et qui, par un vol d'avion, des kilomètres ou quelque chose qui s'arrête aussi dans une histoire d'amour, s'inscrit. Et ça, vous en parlez, Marie Desplechin, en vous adressant à deux personnes et en vous demandant qu'est-ce qui peut se rejoindre. Quand la distance nous paraît insupportable, infranchissable, comment on peut faire pour que ça se rejoigne un peu et pour qu'on puisse tenir? Et qu'est-ce qu'on vous répond?
Alors, j'ai l'impression qu'il y a deux réponses. Vous me direz si...
À quoi je pense?
Voilà, oui, c'est ça. Donc, je parle d'une personne, donc, de Monsieur Grebinski, qui me disait que... Donc, c'est difficile, c'est de repenser les choses, hein, avec des anciens schémas qui ne marchent pas. Qui me disait, ne prêtez pas attention autant dans la continuité, mais regardez les instants. Et vous allez voir, dans les instants, on a tous des instants pareils. Et quelquefois, les gens vous donnent l'outil, quoi. Et ça, c'était vraiment l'outil de pensée. Je me disais, oui, on a tous des instants pareils. Et en m'appuyant là-dessus, c'est-à-dire en entrant, en essayant vraiment, ben ça marche.
En morcelant très très fin. Quoi.
En morcelant très très fin, évidemment, dans cette psyché où c'est peur, où c'est terreur, où ce que disait l'autre. Eh ben oui, moi, je savais, mais pas dans la continuité, dans les instants. Ça, c'était vrai. Et après, ces instants peuvent arriver à construire comme une espèce de continuité. Je suis en train de faire des gestes derrière mon micro, je ne vois pas. Mais enfin bon, une espèce de fil... Qui retrace, mais c'est fin, c'est ténu, c'est pas en une seule fois, mais qui fait le chemin de vous jusqu'à l'autre. Voilà. Et ça, vous avez le pouvoir de faire ça. Et donc ça, c'est un pouvoir, j'allais dire, c'est un pouvoir intellectuel, quoi, un pouvoir de... Et après, l'autre truc, c'est qu'il y a Thierry, parce que, alors, quand on parlait du rire, je vais avoir l'air illuminé, mais dans ces moments de danse, il y a quelque chose vraiment de l'ordre du miracle. C'est-à-dire que d'avoir vu plusieurs fois, je me souviens d'un instant précis dont je parle dans le texte, d'un adolescent dont le corps était complètement recroquevillé sur lui-même, les doigts figés dans des positions qui doivent être extrêmement douloureuses, mais dont il ne bougeait jamais, et que Thierry essayait de renverser tout le temps, hein, de manière assez violente, quoi, pour le chercher chez lui une réaction, une réponse. Et il avait le visage qui était ravagé de tics, hein, qui était aussi dans cette espèce de tension insupportable qu'on voyait. Donc, plusieurs séances comme ça. La dernière séance, à un moment, il se passe un truc. Le môme se lève Le visage est hypnotique, il sourit, il rit et il danse. Mais en fait, quand je reparle, mais j'en ai des frissons. Mais c'est un miracle, c'est miraculeux. Et donc nous, on était là, assis par terre, et on pleurait. Et toi, je ne sais pas ce que tu pouvais penser, parce que c'était... Et alors après, ça revient. Ça, c'est terrible. Enfin, je pense que c'est terrible dans la situation particulière de l'autisme. C'est que jusqu'à maintenant, ça ne peut pas durer. C'est pas une résurrection, quoi.
Mais c'est l'instant.
C'est l'instant.
Ah, mais l'instant, mais ça, c'est dingue, c'est une grâce. Voilà. Et donc, moi, je m'adresse à Thierry, parce que, en fait, c'est ce que j'ai cherché aussi, moi. Quand j'allais à l'hôpital, voilà, je cherchais, tout ça. Et lui, il le fait. Donc, moi, je voulais, j'ai trouvé ça merveilleux d'être lui. J'ai trouvé que c'était un thaumaturge.
Texte pour le papotin. J'ai eu beaucoup de râteaux avec les jeunes femmes, parce que j'habite avec des gens autistes ou apparentés à l'autisme. Et je travaille avec des gens qui ont des troubles envahissants du développement. Tout ça fait que c'est encore plus difficile d'avoir une copine. Tout cela fait que je suis pas totalement heureux. Et je pense que beaucoup de femmes m'humilient en disant « j'ai un copain déjà ».
On n'est pas forcément obligé de faire des textes amusants. J'ai eu beaucoup de râteaux avec les jeunes femmes parce que j'habite avec des gens autistes.
Je suis comme David Simon.
Tu es comme David Simon?
Non, en fait, pas exactement. En fait, j'ai juste des topines. D'avoir une chérie, un peu, j'utilise des sites de rencontre. J'ai bien des sites de rencontre. Non, j'ai en train de un peu fouiller Paris, un peu au foyer, fouiller les banlieues Paris, un peu trouver la belle. Peut-être retrouver une Italienne, peut-être les Italiennes, ils n'aiment pas Rome, peut-être Paris. Peut-être. Bon, à suivre.
À suivre. Bon, on ne peut pas passer juste comme ça, donc après ce texte, hein, il faudrait qu'on dise quelque chose.
Le problème, c'est que dans notre société, il faut qu'on soit dans un moule. Et si tu n'es pas dans le moule, complètement, et de plus en plus c'est comme ça, et si tu n'es pas dans le moule, tu te fais bazarder. Souvent, c'est le cas. Ouais. C'est humiliant. Les gens ont rien à faire. Les gens sont lamentables. Les gens, par moment, il y a beaucoup de gens qui sont lamentables.
Moi, j'aurais une question. Est-ce que ce problème ne peut pas engendrer de la tristesse, justement?
J'ai marqué que je ne suis pas totalement heureux.
Ouais, donc tu ne le dis pas, enfin, ou tu le dis de façon indirecte, mais il y a cette tristesse qui est au fond de toi,
malgré tout. Bah oui, ça fait 12 ans que je suis tout seul. Ma relation date il y a 12 ans. Donc ça commence à faire quand même. Hein.
On entend un atelier de création en fiction signé Alexandre Plan qui en fait a été enregistré des séances ou une séance du Papotin, qui est un projet qui existe depuis très nombreuses années et qui est un journal. Et il y a des réunions où se réunissent différents jeunes gens, plus ou moins jeunes gens, d'ailleurs des adultes autistes aussi, qui partagent des textes, des prises de parole, qui viennent juste parfois assister à ce moment-là s'ils ne sont pas toujours en mesure d'écrire ou de parler comme on vient d'entendre certains s'exprimer. Mais dont David. Ce qui est assez important dans ces séances du Papotin, c'est que Driss El-Khesri répète les textes. Ils sont dits par les jeunes femmes, les hommes qui s'expriment, et ils sont redits par Driss El-Khesri. Marie Desplechin, j'ai eu envie de vous faire entendre ça, d'une part peut-être pour qu'on discute des dialogues que vous avez pu avoir avec ces enfants et ces adolescents, mais aussi parce que vous avez une joie de trouver ce mot de la salle des répétitions. Et vous vous dites que ce n'est pas seulement bien parce qu'on y fait de la danse, mais parce que c'est bien pour continuer justement ce qu'on disait tout à l'heure, de penser ce qui s'y passe. Pourquoi ?
En fait, quand j'écrivais salle des répétitions, je me rendais compte qu'en regardant Thierry, en fait, l'émotion venait de ce que je répétais en fait, de je pouvais faire un rapport entre moi à venir répéter mon malheur et revenir tout le temps, parce qu'à le moment quand vous êtes coincé dans des situations de souffrance, en fait, vous êtes amené à la répéter. C'est très dur d'en sortir. Et ça rappelait les stéréotypies, en fait. C'est exactement, on répète, et vous,
des
vous êtes
enfants
comme ça,
ou des enfants, des autistes.
Voilà, qui est vraiment, et qu'à un moment, vous pouviez casser la répétition. Donc, il y avait une salle pour ça, vous étiez là pour répéter, pas mal de répéter, voilà, à un moment, c'est ce qui est donné, voilà, vous êtes dans la situation de répéter, et à un moment, et ça, c'est ce qu'on voyait quand toi, tu dansais ou que tu bousculais, en fait, de cette manière assez violente, et ben, t'arrivais à casser la répétition. Et de là surgissait quelque chose de tout à fait inattendu. Enfin, de tout à fait inattendu, ou de, enfin, bon, inattendu n'est pas le mot, quelque chose de tout à fait. Sinon, après, je voulais dire que ce qu'on appelle l'autisme, c'est un spectre extrêmement large, et que on sait tellement peu de choses, en fait, pour le moment, hein. C'est sur tout ce qui affecte la psyché, c'est-à-dire, on ne sait rien, on sait de manière expérimentale, mais, et donc, les gens avec lesquels travaillait Thierry ne parlaient pas du tout.
Contrairement aux personnes, aux,
les personnes qu'on a entendues,
les personnes qu'on vient d'entendre, parce qu'il y a aussi, pour en connaître certains qui j'entendais moi derrière avec des bruits, ne parlent pas beaucoup ou pas du tout et assistent aussi au papotin. Mais c'est vrai que celles et ceux qui ont été enregistrés là, voilà, sont des personnes qui utilisent le langage.
Et en utilisant le langage, elles l'utilisent. Enfin, ce qu'elles disent sont des choses qu'on peut absolument comprendre. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, la différence. Que, ou alors, il n'y a pas d'impossibilité de communiquer. Peut-être à un moment, ça va être compliqué de trouver le joint. Mais c'est bon, le type qui se prend des râteaux tout le temps. Hier, j'étais avec un copain qui n'a pas du tout embarrassé de sa psyché. Il dit, je me suis pris des râteaux toute ma jeunesse. Ma vie, c'est Jardiland. C'est assez drôle comme expression. Et je me disais, il aurait été très bien au papotin. Voilà, les gens, c'est, on est sur un truc où on peut se comprendre, quoi. Mais quelqu'un qui n'est plus dans l'usage de la parole ou dont la parole est complètement explosée...
Pour en revenir à la répétition, puisque c'est donc un geste, quelque chose que fait Driss El-Khesri dans ses séances du papotin et qui, je pense, en fait, en répétant, peut casser la répétition. Vous, c'est quelque chose que vous faites aussi, Thierry Tsionyang. Alors, je ne sais pas si c'était le cas dans ses ateliers de danse avec ses enfants et ses adolescents, mais par exemple, dans les moments de danse que vous passez avec des personnes âgées et qu'on peut voir dans Une jeune fille de 90 ans, le film dont vous parliez tout à l'heure, vous commencez par refaire le geste que vous venez de voir, une main posée sur la table, un pied, avant que de le transformer et d'emmener autre part. Pourquoi ?
Mais j'ai appris cette façon d'entrer en danse avec les enfants autistes. À un moment donné, je voyais souvent les soignants freiner, stopper le mouvement répétitif de l'enfant. Et parce qu'il était trop violent, trop physiquement trop prégnant, et je m'étais dit que si je le prenais moi, peut-être ça l'arrêtait lui. Et donc souvent je me mettais à basculer comme lui, à bouger comme lui, à prendre ce mouvement chaotique, ce mouvement répétitif. Et le fait qu'on le fasse à deux, tout à coup, ça transformait la musicalité du mouvement, ça, le regard qu'on avait sur lui et sur moi en train de le faire. Et à un moment donné, ça l'arrêtait comme si tout à coup, il me donnait la permission de le poursuivre à sa place. Et donc, du coup, de se calmer, de se reposer. Et puis, moi, du coup, d'en faire autre chose. Et c'est ce qui s'est passé aussi avec les personnes âgées atteintes d'Alzheimer. Souvent, parce que la parole n'était pas là et que la parole était aussi chaotique, aussi confuse, je m'étais dit, mais au lieu d'amener ma langue à moi, partons de leur langue à eux. Et donc je partais de leur geste, de leur rythme de pas, de leur façon de s'asseoir. Pas comme un miroir, mais au contraire, de le faire souvent à côté d'eux. Jamais face à eux, mais vraiment à côté d'eux, pour voir qu'est-ce qu'il est, voilà, leur surprise, à voir que tout à coup, leur geste, leur mouvement avait été pris, compris par d'autres.
Et ça, c'était dément à voir, hein, parce que c'était tout à fait étonnant le moment où tu fais le geste. Je me souviens plus précisément du prénom, et en fait, parce que l'ado il est super intelligent, en fait il comprend un tas de trucs, mais il comprend pas comme toi tu les comprends, et voir le moment où il reçoit ce que tu dis et où il t'accepte, en fait. Et du coup, il refait le geste et il te porte à un moment. Tu te souviens ?
Complètement.
Tu vois, il te portait où il faisait le pont et tout ça, parce que tu l'avais proposé, tu étais rentré dedans. Et donc, ça passe pas du tout par les mots, mais vous, quand vous assistez à ça, Vous le voyez se mettre en forme, quoi, que d'un seul coup, c'est une communication qui vaut largement celle du langage et qui est extraordinaire puisqu'elle est assez rare. Et elle part de ta proposition.
Elle est assez rare et est-ce que ça a bougé vos mots, par exemple, vous qui les utilisez quand même assez souvent parce que votre travail est d'écrire?
Je sais pas si ça bouge mes mots, mais pour moi, ce que le cadeau de ça, c'était, moi, j'avais jamais mis de mots sur ce que j'avais vécu au pavillon 46. Voilà, je n'avais jamais écrit là-dessus, et je n'écrirai probablement plus jamais. Mais là, parce que c'était adressé à toi et lié à cette expérience et dans le cadre de ce travail, je suis allée, je pense que c'était ça que je voulais dire. Je voulais le dire. Pour toi, mais je voulais le dire, pour moi. Donc ça, c'était parfait.
D'habitude, je suis avec Céline tous les lundis. Elle n'est pas venue, elle a attrapé un rhume.
Brume matinale, ramasser les prunes, amasser des lagunes. Un rhume diabétique, personne pathétique ou soporifique. Une personne dyslexique, une personne laïque. Personne qui n'existe pas. Quelqu'un de l'obonique, quelqu'un de sarcastique. Rien à l'homme labromantard. Labromantard, c'est quand les gens se séparent. Bétoclard, fainéant, c'est un peu déplaisant, selon moi. Phare, un peu bizarre, un peu sarmonard. Claire, je sais pas, Pierre.
J'aime pas les faubourgs de Pierre. Demain je pars me balader toute la journée avec mon ami Pierre.
Il n'y a pas de pierre dans les murs, mais il y a des briques. Cela perdure, je viens de casser le mur. Non, le mur n'est pas tombé. Je viens respirer l'air pur, de l'air fraîcheur, de l'air plus dur, de l'air frais, de l'air givré, givré comme la neige.
Demain, mon ami François et moi allons jouer dans la neige. Il y aura un beau manteau de neige tout blanc.
Coton blanc, coton en laine, le lin, la soie, le vrai François. Jean-François, c'est comme le cuisinier. François Hollande, Premier ministre, François Dupré, François Pierre, François Ier le roi, comme Louis-Philippe. C'est un plaisir de vous rencontrer, François. François, je peux aller sous la neige? Mercure en forte baisse. J'ai un rhume.
D'habitude, je suis avec Céline tous les lundis. Elle n'est pas venue, elle a attrapé un rhume.
Les enfants autistes n'arrivent pas, du fait de leur équipement neurophysiologique personnel, n'arrivent pas à traverser les phases normales de développement de l'enfant. Et donc, à travers des consultations de pédopsychiatrie et avec les connaissances qu'on a, et notamment des connaissances qui concernent des psychanalystes anglo-saxons, mais aussi français, qui se sont beaucoup penchés sur notamment la clinique du bébé, la clinique des âges les plus jeunes de l'enfant, on essaye d'aider ces enfants avec des troubles autistiques à traverser ces phases de façon pas naturelle, bien sûr, mais de façon aidée, voyez, à essayer d'accéder à notamment l'entrée en communication et en relation à autrui. Parce que c'est vraiment ça le fond de la difficulté des enfants autistes. Leur difficulté de communication, leur difficulté sensorielle, leur difficulté... et donc nous, je pense qu'on a vraiment une place à tenir, mais on est extrêmement attaqué, et donc les services de pédopsychiatrie, sincèrement, ont peur de parler. Donc aujourd'hui je parle, je dis, nous avons le droit de parler, nous avons le droit d'exister, de continuer. Et c'est d'autant plus surprenant que, par exemple, ici, bien sûr, les familles nous sollicitent beaucoup et on regrette beaucoup de ne pas avoir tellement de moyens à disposition pour aider les enfants et les familles d'enfants autistes. Voilà, mais il y a une guerre idiote entre thérapie comportementale et la pédopsychiatrie. La pédopsychiatrie étant assimilée à la psychanalyse, ce qu'elle n'est pas, pas uniquement. Maintenant, les outils théoriques de la psychanalyse nous aident à penser.
C'est la pédopsychiatre Clémentine Rapaport au micro d'Alice Ramon sur France Culture. Elle est pédopsychiatre à l'hôpital Robert Ballanger à Aulnay-sous-Bois en Seine-Saint-Denis et elle accueille autant que faire se peut dans les limites actuelles. Elle parlait des moyens à l'instant, des adolescents et des enfants autistes. Alors on est avec vous, Thierry Tchenyang, Marie Desplechin, pour parler de Au bois dormant, ce texte où vous racontez entre autres l'expérience menée avec des enfants ou des adolescents autistes en danse et en conte, d'une certaine manière. Mais vous ne le faites pas n'importe où, vous le faites à l'intérieur de l'institution. Et vous disiez tout à l'heure, Thierry Tchenyang, qu'il était important pour vous de rappeler qu'il ne s'agissait pas là, dans ces ateliers, de soigner. Sauf que vous êtes dans un lieu de soins. Et que forcément, il y a une tension, quelque chose qui... Une tension pas forcément mauvaise, hein, mais j'entends un dialogue qui doit s'établir. On a parlé de la manière dont vous avez invité Marie Desplechin. Comment vous avez-vous été invité ou comment êtes-vous entré dans cet hôpital ?
J'étais invité parce que l'hôpital Montperrin, à Aix-en-Provence, a un lieu d'art. Donc c'est un hôpital psychiatrique et dans cet hôpital, il y a un centre d'art contemporain avec des résidences d'artistes, des écrivains, des musiciens, des chorégraphes, des metteurs en scène. Et chaque année, il y a 3-4 artistes invités à passer une année dans ce lieu, donc à aller tous les jours dans l'hôpital psychiatrique et de venir travailler. Donc on peut s'enfermer dans le studio comme on peut le faire et juste travailler, mais on peut aussi pendant ce temps de résidence faire un travail de recherche, d'expérimentation, de partage avec soit les soignants, soit avec des adultes dans l'hôpital. Et quand je suis arrivé, j'ai demandé de travailler avec des enfants. Et c'était tout nouveau parce que c'était un pavillon un peu éloigné et que très peu d'artistes pour l'instant s'étaient intéressés à l'enfance en hôpital psychiatrique. Et j'ai eu envie, à cause de la danse, de chercher des corps qui étaient empêchés de mouvement et de voir quelle danse pouvait surgir. Et c'est comme ça que je suis arrivé dans ce lieu.
Ça supposait des discussions, ça supposait de devoir expliquer ce que vous faisiez au corps médical, par exemple.
J'ai eu la chance d'avoir comme avec la jeune fille de 90 ans, des chefs de service très ouverts, très très accueillants, et qui nous ont permis d'accéder aussi à tous les corps de métier, jusqu'à la femme de ménage, jusqu'au concierge, et de nous accompagner vraiment dans le processus, dans l'accueil, et de nous réserver comme ça des vrais moments de travail, des vraies plages de réflexion, des espaces de chambouler l'emploi du temps de tout le monde pour pouvoir permettre à ce travail, à cet atelier de se mettre en place. Donc vraiment des gens très... J'ai eu la chance dans ces deux expériences d'être vraiment accompagné par le service soignant et par les familles.
Vous dites la chance et on entendait Clémentine Rapaport au micro d'Alice Ramon parler d'une guerre débile qui pouvait se mener sur la prise en charge des enfants ou des adolescents autistes en fonction que on penche plus ou moins d'un côté de la pédopsychiatrie qui serait amalgamée avec des approches psychanalytiques et puis d'autres, j'imagine, approches peut-être un peu plus comportementales, un peu plus appliquées. En réalité, les choses elles sont souvent beaucoup plus complexes à l'intérieur des institutions. Cependant, c'est pas un milieu qui brille des moyens de sa liberté d'agir, de sa possibilité de mettre en place beaucoup de choses. Il y a beaucoup de familles qui sont dans la souffrance précisément parce que les enfants et les adolescents ont beaucoup de difficultés à être pris en charge. Est-ce que vous avez eu la sensation d'être, compris dans l'approche ou devant intégrer une certaine approche? Enfin, comment avez-vous trouvé votre place? Vous parliez tout à l'heure, Marie Desplechin, de trouver sa place dans la salle de répétition, mais au sein de l'institution, est-ce que ça a été pour vous simple?
Mais moi, j'ai pas eu de rapport avec l'institution, puisque moi, en fait, j'ai travaillé pour Thierry.
Donc, c'était l'occasion... votre employeur, votre institution.
C'est vrai. C'était mon institution. Et en fait, j'ai eu l'occasion de discuter avec l'éducateur avec lequel tu travaillais, par exemple, qui m'a dit des choses que j'ai jamais oubliées, d'ailleurs, qui étaient certaines choses super. Par exemple, que l'autisme n'était jamais le problème de la personne qui était autiste. C'était le problème de la personne qui n'était pas autiste. Ça, c'est donner des espèces de petits moyens de penser qui étaient super intéressants pour approcher les choses. Mais non, moi, j'ai pas eu de rapport avec l'institution. Après, je pense que si la situation, elle est comme elle est aujourd'hui, c'est le fruit d'une longue histoire.
Et Et d'une longue histoire.
Oui, je pense que ça mérite d'être poursuivi.
Bah, c'est très compliqué parce qu'il y a eu sur les personnes autistes et les familles des personnes autistes, il y a quand même eu une forme de, je sais pas comment on peut dire, de confusion mentale et de maltraitance qui a été le fait de l'institution quand même pendant un certain nombre d'années. Et quand une famille arrivait avec son enfant complètement enfermé et que c'était la mère qui était à soigner et pas l'enfant et que l'enfant, enfin, je sais pas, je repense au documentaire de Julie Bertuccelli sur Baboulec, oui. Et quand la mère retire l'enfant de l'endroit où elle ne fait rien en disant ça ne sert à rien, on va le faire autrement et tout ça. Donc il y a quand même eu cette institution, elle est enfin, je peux pas mettre en cause des gens qui travaillent et qui donnent leur vie, voilà. Mais elle est dans une situation difficile mais parce
qu'elle est très plurielle, on peut difficilement parler de l'institution.
Oui, elle est très plurielle, mais pendant un moment, il y a quand même eu un espèce de mouvement général qui n'a pas été remis en cause complètement à tort, disons. Enfin, vous voyez comme je marche sur des œufs, parce que ce que voilà.
Non, mais tout le monde marche sur des œufs avec cette question-là. Et... Bon. Thierry Tionnion.
Non, c'est tout le monde marche encore comme effectivement sur les œufs et c'est par le biais du protocole du ministère de la culture à l'hôpital, des bourses de travail dans les institutions qui ont permis et le film de Valéria et l'expérience avec Marie puisque l'hôpital n'avait aucun moyen de m'accueillir. Donc c'était par le biais de d'autres structures qui nous permettaient de venir travailler à l'hôpital et on a eu la chance que certains services sont prêts à accueillir et à se laisser transformer tout à coup pendant un an, une semaine dans le cadre de la maison de retraite, l'hôpital gériatrique à Ivry, de laisser tout à coup pendant une semaine, pendant un an, quelqu'un venir danser, quelqu'un venir bouger les meubles et faire danser les gens. Mais c'est la culture qui m'a invité à entrer dans ces lieux. L'hôpital m'a reçu, mais ne m'a pas accueilli.
Ce que je veux dire, c'est l'hôpital, c'est pas un non-monde. Et en fait, aujourd'hui, c'est comme si c'était un non-monde. Et c'est un non-monde à tel point qu'il n'y a même plus de moyens et que d'ailleurs, il n'y a même plus de place parce qu'on vous met dehors dans l'état dans lequel vous êtes, dans des états terribles.
Et il y a des listes d'attente pour les hôpitaux de jour pour recevoir les enfants et les adolescents autistes qui sont énormes.
Mais c'est une situation, c'est un tellement terrible scandale. Et on vit dans un pays où, c'est tant que vous n'êtes pas dans la norme, ce que disaient les gens du Papoutin tout à l'heure, c'est vous n'avez plus droit à l'existence, en fait. Mais que ce soit pour... Et en psychiatrie, c'est flagrant. Et Mais on peut le cacher. La douleur, elle va rentrer dans les familles ou elle va traîner dans la rue et vous ne la verrez pas. Et comme c'est un monde qui n'est pas un non-monde, le monde, il a besoin de l'art. Et tout le monde le sait. Et tout le monde le sait aujourd'hui. Et les gens dansent, ils sont contents de danser. Les gens font de la peinture. Et les gens lisent. Et les gens vont au cinéma et au théâtre. Et l'hôpital, rien, alors. Ces gens-là n'auraient droit. Même c'est cette simple notion du droit humain. Sauf que comme ils sont là, il faut y aller. C'est-à-dire, c'est pas eux qui vont sortir. Et donc, c'est juste légitime. Ce serait comme le minimum des choses à faire, non pas pour soigner, mais parce que c'est, il ressort de la dignité de l'être humain de pouvoir s'exprimer, avoir accès à l'expression des autres. Et vous n'êtes pas mort quand vous êtes à l'hôpital psychiatrique. Donc voilà.
Vous dites dans ce texte-là, Marie Desplechin, à un moment donné, je lis, je dois vous entendre parler quand vous écrivez, à bon entendeur, salut, et je crois que ça a à voir avec la question de l'ouverture, de personnes qui peuvent ouvrir des portes, casser certaines frontières, pousser des murs, vous disiez pousser les meubles, Thierry Tionnion, il se trouve que pour venir dans ce studio, je suis passée par la porte de la chapelle et la porte de la Villette où les choses se détériorent de plus en plus, où des camps de migrants se mélangent avec d'autres misères et d'autres difficultés à être dans cette grande ville. Je ne voudrais pas faire de parallèle complètement... fort mal à propos. Cependant, j'ai eu l'impression dans ce texte que, au-delà de ce que vous aviez vécu avec ces enfants ou ces adolescents autistes dans l'hôpital, il y avait quelque chose qui disait « il va vraiment falloir qu'on apprenne tous ensemble à ouvrir plutôt qu'à fermer ».
À bon entendeur. Ou à qui le dites-vous ?
Ah oui, à qui le dites-vous ? Non, mais c'est ce qu'on, oui, c'est ce qu'on, c'est ce qu'on continue au quotidien dans nos, dans nos, dans nos vies, dans nos projets. Et ça fait 10 ans avec Marie qu'on se, voilà, qu'on pas qu'on raconte les mêmes choses, mais qu'on pousse ses portes, qu'on est extrêmement nombreux.
Ce qui est paradoxal, c'est que quand on parle autour de soi, qu'on rencontre des gens de tous les milieux.
Exactement.
Mais le nombre de gens qui inventent des trucs aussi, on n'est pas tous dans le même. Il y a celui qui fait le collectif, celui qui est dans l'individuel, celui qui va y se consacrer toute sa vie, la moitié, le quart dixième. Mais une telle énergie qui n'arrive pas à se coaliser, c'est fascinant. Je pense que c'est
Mais en même temps, elle existe. Vous parliez tout à l'heure des petits fragments et des petits instants. Elle existe, cette énergie.
Mais elle existe partout. Et elle est productrice d'énormément de bien. Elle fait que ça tient. Elle fait que ça tient toujours. Et évidemment, on rêve de, on est atterré de voir que, rien que pour prendre l'exemple de l'hôpital psychiatrique, par exemple. Que, il n'y a pas les moyens. On ferme. Ça n'intéresse personne. Et quand vous parlez de la chapelle, c'est pareil. Surtout que ça rend heureux, c'est ça que je voulais ajouter. C'est-à-dire que je pense que ni pour Thierry, ni pour moi, ni pour vous, quand vous passez par la porte de la chapelle, ce sont des choses qu'on fait dans une démarche oblative ou qui serait de la ou du don ou je sais pas quoi. C'est parce que ça fait
l'avance. Enfin, en l'occurrence, je n'y ai fait que passer, ce qui était vraiment pas grand-chose.
Oui, enfin bon, dites ce que vous voulez. Mais...
Au Bois dormant, c'est le titre de votre texte aux éditions des Buscles, Marie Desplechin, Thierry Thionnion. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour en parler. Et puis, puisqu'il est dans mes mains, Une jeune fille de 90 ans, le film de Valérie Bruni-Tedeschi et Yann Corridian existe en DVD chez Agathe Film. On peut donc se le procurer et le regarder.
Depuis son coup de pied à la lune sous les falaises de craie, on cherche encore un morceau dans les montagnes de galets. Et ce soir-là, quand l'homme a vu voler cette ombre au bout du champ, des traces tournées autour d'elle, quelqu'un l'a poussée en avant. Elle disait, même si tu sais pas danser, on pourrait tourner un peu. Si tu marches sur mes pieds, je disparais sous tes yeux.
Par les temps qui courent, on se retrouve lundi à 21h sur France Culture, quand vous voulez sur franceculture.fr ou en podcast. Jeudi, on se retrouve, mais en fait, vous retrouvez, vous avez la chance de retrouver Romain de Bec de Lièvre à partir de lundi prochain. Et jusqu'à vendredi, son premier invité s'appelle Jean-Marc Rochette et le reste de la programmation sera forcément merveilleuse. Écoutez-le, soyez au rendez-vous. Au son ce soir, Lidouine Caron à la réalisation, Milena Elig, Romain de Bec de Lièvre donc, Jeanne Aléos, Corinna Mar m'aident à penser cette émission. Et moi, je vous dis à bientôt.
Si tu marches sur mes pieds, je disparais sous tes yeux. Et c'était beau, tous ces bateaux, ces feux de détresse allumés. Les premiers curieux sur la grève avec le jour qui se levait. On l'a cherché le nez en l'air, bien sûr qu'on y croyait encore. Un bouquet d'orties et l'honneur de ne pas te demander sa mort. Elle disait, même si tu sais pas danser, on pourrait tourner un peu. Si tu marches sur mes pieds, je disparais sous tes yeux. L'affaire est terminée maintenant, aucune piste écartée. Pourtant, on retourne la scène encore à un couteau dans la plaie. Sans trop savoir où ça nous mène, on s'accroche à ce vieux mystère. Tout porte à croire qu'elle aurait traversé la Manche pour l'Angleterre. Elle disait, même si tu sais pas danser, on pourrait tourner un peu. Si tu marches sur mes pieds, je disparais sous tes yeux. Tourner toujours autour d'elle, alors on rejoue la scène. pour tourner toujours autour d'elle. 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 Pour tourner toujours la cédelle. Pour tourner toujours autour d'elle. Pour tourner toujours la cédelle. Sans y croire vraiment.